Chapitre 81. Grace, Jeff Buckley. C'est la dernière nuit avant la finalité de notre voyage. Nous sommes arrivés à destination en fin d'après-midi. On n'a pas visité la ville pour garder la surprise intacte. Le motel dans lequel nous séjournons possède son propre restaurant. C'est là que nous avons dîné, avant de regagner nos chambres. Adèle chante à tue-tête sous la douche tandis que je tente de réconforter Charlie. Je l'ai appelé pour lui souhaiter une bonne nuit. Il s'est effondré au moment de raccrocher.
« Mon chéri, je serai bientôt là. Tu t'amuses bien avec Nolan. »«
Oui, mais tu me manques. »«
Toi aussi, tu me manques beaucoup. Je prends plein de photos. J'ai hâte de te les montrer. Tu vas adorer. »« Je t'ai dit que j'avais fait de la moto. »
« C'est vrai ? »
s'écrie-t-il.
« T'as monté devant ou derrière ?»
Je ne le corrige pas. Je ne le corrige plus. Il m'aura fallu des années et l'exemple d'un homme pas comme les autres pour que la différence de mon fils ne soit plus un problème. Il est atteint de dysphasie. Et il est aussi tendre, drôle, bourré d'empathie, râleur, secret, futé. Il ne se résume pas à son diagnostic. Il est tellement plus que ça. J'étais à l'arrière, bien accrochée à papy. Allez, mon chéri, je t'appellerai demain matin. Il est l'heure d'aller au schnouf. Je suis aussi surprise que lui d'entendre ce mot dans ma bouche.
Maman, t'as dit que le schnouf, ça n'existe pas.
Ça existe dans notre famille. Allez, bonne nuit, mon amour. À peine ai-je raccroché qu'Adèle sort de la salle de bain encore trempée, sa trousse de toilette à la main.
« On a oublié de donner les médicaments à papa. Tu peux y aller ?»
Je quitte notre chambre et frappe à la porte de celle voisine de mon père. Une fois, deux fois, trois fois, Adèle me rejoint. La personne de l'accueil tente de l'appeler sur le téléphone fixe. Son portable est éteint. Il ne répond pas. Elle refuse de nous ouvrir la porte malgré nos supplications. Elle finit par disparaître quelques minutes dans le local derrière le comptoir. Elle réapparaît en affirmant que notre père n'est pas dans sa chambre. Elle refuse de nous donner plus de détails, mais nous fait comprendre que les caméras en attestent. On est morte de trouille. Les chambres donnent directement sur l'extérieur. Il peut être partout. Il peut être blessé. Il peut être perdu. Il peut être terrorisé. On devrait se séparer, pour multiplier les chances de le retrouver. Mais sans même se concerter, on décide qu'on a besoin d'être ensemble. On arpente les allées, les couloirs, on fouille les salles communes, on interroge toutes les personnes que l'on croise. Il ne semble pas être à l'intérieur. En ne le retrouvant pas sur le parking, je regrette de lui avoir fait prendre ce risque. L'emmener loin de ses repères et le laisser dormir seul était inconscient. On a eu de la chance qu'il ne disparaisse pas plus tôt. On le retrouve sur le chemin qui mène à l'établissement. On lui saute dans les bras. Il nous repousse. « Qu'est-ce que j'ai ? » demande-t-il. « Comment ça ?» je demande. « Je déraille, hein ?»«
T'as toujours déraillé, papa ?»
répond Adèle en l'enlaçant à nouveau. Qu'il le veuille ou non, on le serre de toutes nos forces. Il se laisse faire. Je crois même déceler un léger sourire.
« Je cherchais ma carte vitale. Il est mal foutu, cet hôtel aussi. C'est un labyrinthe. »
On le ramène dans sa chambre. On reste un moment avec lui, à discuter de choses assez légères pour que son esprit s'envole. Je lui promets qu'à notre retour, on installera un tipi dans le jardin. Quand on le quitte, il affirme aller bien, mais tout son corps dit le contraire. L'inquiétude s'est emparée de lui. Elle l'étreint dans ses serres. Elle va le dévorer. On regagne notre chambre en se disant qu'il passera bientôt à autre chose. Que c'est l'avantage de sa maladie. Il aura bientôt oublié. On cherche à se rassurer, mais on n'y croit pas. Je vais te dire un truc horrible, Adèle. Je lui souhaite de mourir d'autre chose, avant d'avoir complètement perdu la boule.
Julianne, je ne veux pas t'entendre dire ça.
Moi non plus. Mais je ne peux pas m'empêcher de le penser. Je ne m'en remettrai jamais. Je n'imagine pas un monde sans lui. Je refuse de l'imaginer.
Ça arrivera bien assez tôt. Je ne me le souhaite pas, mais je le lui souhaite. Il a toujours déclaré, avec la désinvolture de ceux qui ne sont pas concernés, qu'il voulait qu'on le débranche, si un jour il perdait l'usage de son corps ou de sa tête. « L'un sans l'autre, ça marche pas !» disait-il en riant. L'heure n'est plus à la blague quand ça devient palpable. Ce vœu aussi, je lui souhaite de le réaliser. Je ne serai jamais prête. Il sera toujours trop tôt. Quel que soit son âge, perdre ses parents, c'est un chagrin d'enfant. La petite fille en moi pleure à gros bouillons en tenant la main de sa sœur.
« Il y a de vilains monstres dans la chambre de papa, »
dis-je à Adèle.
« T'as raison, ma chuchu.
Deux chevaliers ne seront pas trop pour en venir à bout. »
On frappe à la porte. Il ouvre, prêt à râler. Je n'oublierai jamais son rire. À l'instant où il découvre ses deux grandes filles, corbeilles sur la tête, draps autour du cou, armées de cintres et de stylos, prêtes à en découdre contre les monstres paternels.